Frères et sœurs, qu'il est déroutant, notre Dieu. Oui, qu'il est déroutant. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de parler de votre foi, de dire quel est l'évangile qui anime votre vie au quotidien, ce qui donne un sens à votre existence. Peut-être l'avez-vous déjà évoqué avec des personnes de votre entourage et pas forcément des chrétiens. Peut-être même avez-vous eu cette audace de discuter avec des hommes, des femmes qui ne partagent pas notre foi. Alors, peut-être aussi, avez-vous entendu ce commentaire « Le Dieu dont tu me parles, le Dieu de Jésus-Christ, est vraiment un Dieu déroutant. » Oui, il est vraiment déroutant, et c'est ce que nous disent les textes de la parole de Dieu entendus ce matin, car il est à la fois tout-puissant, et pourtant, il se présente, dans la bouche de Jésus-Christ, comme un enfant. Tout-puissant, un enfant qu'il est déroutant. Dans la première lecture, nous entendons parler ceux qui méditent le mal. L'auteur du livre biblique de la Sagesse imagine, en effet, que ceux qui méditent le mal s'apprêtent à mettre des bâtons dans les roues du juste, ce juste qui ne correspond pas à leur logique de pensée. Eux sont enfermés dans une logique mondaine, une logique de l'oppression, de l'accaparement, du mensonge. Oui, face à eux se dresse le juste qui, comme un prophète, s'oppose à la compromission, s'oppose à la corruption de ceux qui méditent le mal. Oui, il s'oppose à eux, il leur reproche leur désobéissance, il les accuse d'infidélité. Oui, ce juste est un prophète et pourtant il semble vulnérable face aux menées de ses adversaires. Et notez ce qu'il y a peut-être de pire dans les propos de ces méchants mis en scène par l'auteur du livre de la Sagesse, c'est qu'ils reconnaissent le juste comme injuste, comme injuste, en deux mots. Ils le nomment ainsi. Si le juste est fils de Dieu, ils le reconnaissent comme tel. Et pourtant, ils font le contraire. Et ce faisant, ils s'opposent ouvertement à Dieu, d'une certaine manière. Ce sont, dans le langage biblique, des blasphémateurs. Et ce qu'il y a peut-être aussi de surprenant dans leurs paroles, vous aurez reconnu, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'ils utilisent exactement les façons de parler, de s'adresser au juste, du diable. Rappelez-vous la tentation de Jésus au désert. « Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, fais cela. » Et nous avons bien les méchants qui disent « Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, etc. etc. » Oui, ceux qui méditent le mal, ceux qui adoptent la logique mondaine, adoptent les paroles du malin. Et face à eux, se dresse le juste dans sa vulnérabilité. Il semble comme un enfant désarmé face à ses adversaires. Cette figure du juste, elle préfigure évidemment celle de Jésus-Christ. Et lui-même se présente de manière déroutante à ses disciples. Vous savez bien, ils ont tout quitté pour le suivre, parce qu'ils pensent qu'il est le Messie annoncé par leur Père. Un Messie qui sera à la fois un sauveur spirituel, mais aussi un sauveur politique, qui rendra sa gloire au peuple d'Israël. Et voilà que Jésus lui-même annonce qu'il sera persécuté et qu'il sera mis à mort avant de ressusciter. Alors la résurrection est bien difficile pour eux à comprendre, mais plus encore scandaleux est le fait que le Messie doive être livré aux mains des hommes et mis à mort. Ils ne comprennent rien, et nous dit saint Marc, ils ont même peur. Ils ont peur à double titre. Ils ont peur pour ce qui peut leur arriver. Leur chef va être livré à mort. On peut imaginer ce qui va pouvoir aussi leur arriver à eux. Et deuxième peur, ne se seraient-ils pas trompés ? Ne se seraient-ils pas fourvoyés en mettant leur confiance en Jésus ? Et vous voyez bien ce qui en découle. Une discussion entre eux. Une discussion pour savoir qui est le plus grand. Comme si les disciples se disaient « Jésus n'est pas le Messie. Il n'est pas le Tout-Puissant qu'on nous a annoncé. Alors, il va falloir songer à le remplacer, peut-être, par l'un de nous. » Et vous savez bien que parfois, c'est notre tentation, chers frères et sœurs. Quand le Christ semble sourd, aveugle à nos misères, à nos épreuves, à nos difficultés, eh bien, nous avons la tentation de le remplacer. Mais c'est vrai aussi pour ceux qu'il a choisis. Le pape, les évêques, quand nous les trouvons un peu trop mous, ou au contraire, un peu trop durs. Chers frères et sœurs, n'avons-nous pas parfois la tentation de vouloir les remplacer ? Oui, c'est redoutable cette question qui se pose à nous lorsque nous voyons la toute-puissance de Dieu qui s'incarne dans la faiblesse. Alors Jésus, pour éviter que ses pauvres disciples ne se fourvoient davantage, eh bien, il leur donne deux leçons. Première leçon, voilà, celui qui veut être le plus grand sera, voilà, le serviteur de tous et le dernier de tous. Et plus que des paroles, Jésus va incarner cette grandeur du service au lavement des pieds. Rappelez-vous ce geste d'esclave qu'il assume et qui ne sera d'ailleurs pas compris par Pierre. Et plus encore sur la croix. Dieu s'abaisse jusqu'au dernier point le plus bas de notre humanité. Et c'est cela qu'il vaudra d'être exalté par Dieu, d'être assis à la droite du Père. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté, dit très bien saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Oui, notre Dieu est celui qui assume l'abaissement le plus total. Et cela, nous avons parfois du mal à le saisir comme les disciples. Et nous n'aurons jamais assez de notre existence pour comprendre que cet abaissement, finalement, c'est le signe le plus manifeste de la toute-puissance et de la gloire de Dieu. Et puis, deuxième leçon, elle nous est donnée par Jésus aujourd'hui grâce à Charles. Charles, eh bien, je pense que tu es cet enfant que Jésus nous propose pour comprendre qui il est et plus encore pour comprendre qui est Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous verrons peut-être Charles un petit peu mieux tout à l'heure, lorsqu'il sera baptisé. Mais comment comprendre que le Père, que nous professons comme tout-puissant dans le credo, et il est vraiment tout-puissant ce Père, comment comprendre que ce Père soit identifié par Jésus à un petit enfant ? Eh bien, frères et sœurs, nous sommes appelés à recevoir chacun, chaque femme, chaque homme de ce monde, comme un enfant, c'est-à-dire comme une personne vulnérable, une personne dont il faut prendre soin, une personne qu'il faut protéger. Oui, si Dieu nous demande de l'accueillir comme un enfant, c'est qu'il sait que nous aurons peut-être du mal à comprendre ce que signifie nous aimer les uns les autres. Alors, il nous donne ce matin Charles, voilà, comme symbole, eh bien, de qui il est. Il a assumé notre humanité, il a assumé notre vulnérabilité et il s'est fait petit enfant. Nous vivrons dans quelques mois le mystère de Noël. Il est déjà anticipé d'une certaine manière dans l'évangile du jour. Alors, oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous accueillir les uns les autres comme des enfants. Et cela nous évitera finalement de tomber dans les pièges que souligne saint Jacques dans sa lettre, en particulier le piège de la convoitise et de la jalousie. Rappelez-vous comment la jalousie entre dans le monde, comment la jalousie, oui, nous est rapportée par la Bible. Première des jalousies, Caïn et Abel, des frères, des enfants, dont l'un n'accepte pas que l'autre soit aussi un enfant aimé de Dieu. Et c'est souvent ce qui déclenche le problème. Nous ne comprenons pas que chacun, nous sommes intimement, infiniment et inconditionnellement aimés de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur que l'autre soit plus aimé que nous. Faisons confiance au Seigneur. Évitons les querelles, les jalousies, les médisances, tout ce qui nuit à l'unité dans la famille de Dieu. N'ayons pas peur d'avancer ensemble en enfants bien-aimés du Père. Alors oui, chers frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur de comprendre qu'il est vraiment tout-puissant. Oui, il l'est. Mais il l'est en se révélant dans notre humanité. Il se fait tout-puissant en se révélant comme un enfant. Amen.